Le 16-19 avec Sana sur News FM.
Eh oui, les amis, bienvenue à vous à cette émission spéciale à l'occasion des 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme et un temps d'échange avec la participation citoyenne des quartiers. Donc voilà, je crois que je ne suis pas très très fort dans le domaine politique, mais en tout cas, j'ai mes invités ici. J'ai docteur en sciences politiques à l'université de Grenoble. Bonjour Christelle.
Bonjour Sana.
Comment ça va ?
Bien et toi ?
Oui, ça va super aussi. Et puis on a Anan qui est habitante et engagée dans la vie associative des quartiers. Comment ça va, Anna ?
Très bien.
Tu vas bien ?
Sana, ça va ?
Oui. Bonjour, Rachid.
Le fait d'entendre ta voix, ça va.
Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Parce que ça fait un moment quand même qu'on ne s'est pas eu sur les ondes de News FM.
C'est vrai.
Mais voilà, Rachid, même si moi je te connais, je fais une présentation, mais c'est pas...
Oui,
voilà.
Mais il faut m'inviter plus souvent.
Oui, c'est vrai. Donc,
si je te manque.
Du coup, là, c'est l'occasion. Est-ce que tu peux te présenter quand même pour nos auditrices et auditeurs
qui
nous
écoutent ? Moi, tout simplement, d'abord, je suis invité dans le cadre de cette audition, puisque c'est une audition dont on parle, d'une commission nationale, donc ministérielle, dans laquelle un militant associatif, Mohamed Mechmache, est apparemment à la tête. Dans le cadre du gouvernement Macron, puisque nous sommes dans ce contexte-là, et dans le cadre du mouvement contre la retraite, dans un cadre politique quand même contraint, assez lourd, on peut se poser la question, d'ailleurs, pourquoi on fait aussi rapidement une audition des habitants en l'espace d'une semaine ou deux, en mobilisant tout le monde. Donc, moi, je suis là simplement en tant que, on va dire... une personne qui va essayer de créer une médiation ou prendre la parole pour la donner à la fois aux habitants qui seront là, aux associations qui seront là demain, j'espère aussi, en nombre, et puis aussi aux techniciens, aux élus, je dirais à tout l'appareil de dispositif de la politique de la ville, qui rassemble à la fois les gens de la commission, qui vont se présenter, qui vont présenter la raison pour laquelle ils sont ici, la raison pour laquelle on va parler, et puis aussi les élus, dont le maire, Éric Piolle, qui sera là aussi. Bref, il s'agira de trouver un temps de parole et un temps d'écoute pour tout le monde. Bon, et mon travail, ça sera simplement de donner la parole.
De donner la parole, c'est très bien. Anan, je t'ai présenté, mais ça a été rapide, une présentation bâclée en tout cas.
Non, pas du tout.
Voilà. Donc, est-ce que toi aussi, tu peux te présenter un petit peu ? Tu peux mettre ton micro juste en face de
D'accord,
toi, s'il te plaît.
Ok. Ouais. Bon, c'est mon baptême. donc, voilà. C'est ma première fois, donc je suis un peu...
Tu le fais bien. Bon, t'inquiète, après... c'est comme à la maison.
Je suis un peu émue, en même temps un peu... Voilà. Je me présente. Alors, moi, c'est Dali Anan. Je suis habitante de Grenoble. Et je viens juste donc de m'engager dans cette la commission donc dans le l'association Passons-nous qui va organiser donc cet événement avec la commission ministérielle qui va se présenter qui va venir donc jeudi le 8 juin. Et la venue de cette commission va nous permettre aussi d'inscrire l'agglomération grenobloise dans une dynamique participative pour les futurs contrats de ville, je crois.
D'accord, voilà. Pour les futurs contrats de ville.
Ouais.
Ah, on va savoir un peu plus loin là, ce contrat, qu'est-ce que ça signifie d'abord. Christelle, je t'ai présenté aussi, mais je te laisse faire aussi, Christelle.
Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, j'ai été contactée pour participer à l'organisation de ce temps, qui est à destination de tous les habitants et de toutes les associations pour en fait faire des constats, faire des propositions, intervenir sur leur expérience ou pas d'ailleurs du contrat de ville et comment on peut améliorer cette politique publique. Et du coup, je participe avec un certain nombre d'associations à l'organisation de ce temps. Donc j'en profite tout de suite pour inviter les habitants et pour donner la date, le lieu, etc., un peu les informations concrètes. Donc de l'après-midi, en fait, qui aura lieu demain au Muséum de l'Histoire naturelle, qui est en face, en fait, de l'Hôtel de Ville, de 13h30 à 17h. Donc comme on disait, c'est une audition ministérielle. Donc en fait, c'est un moment de temps d'échange où 1h30 sera prévu à la parole des habitants pour discuter avec les membres de la commission et qui aura un impact ou pas en fonction avec le gouvernement, sans garantie, mais au moins c'est un lieu où on va pouvoir discuter de l'ensemble des thématiques, mais encore une fois sans garantie, et en plus, vu le temps, comme disait Rachid, qu'on nous a donné, en fait, où on nous a prévenu 3 semaines avant pour organiser ce temps, on se demande si on a bien envie que la parole des habitants et des associations soit prise en compte. Néanmoins, on a quand même joué notre rôle, on va dire, pour la concertation, et en tout cas pour essayer de faire remonter les problématiques qu'on connaît, parce que certains ont une expérience des contrats de ville, et comme je disais, d'autres absolument pas. Certains habitants ne connaissent pas. On a des difficultés à faire remonter en fait la parole des habitants, à faire répondre aux besoins avec toutes les problématiques politiques, sociales, environnementales, etc., sur l'éducation, police, population, justice, etc. Il y a un nombre
énorme,
énorme de problématiques, mais du moins, tout le monde aura la parole, et c'est pour ça qu'on a fait aussi venir... que Rachid Menjeli est là, parce que c'est quand même aussi son atout, sa particularité, en tout cas cette force qu'il a de donner la parole à tout le monde. Donc vous êtes tous conviés demain après-midi pour parler avec une commission ministérielle.
À l'auditorium du Muséum de l'Histoire, hein, d'Histoire naturelle, c'est ça, hein?
C'est ça.
D'accord. Ben, ce contrat de ville, hein, moi, bon, c'est à travers, depuis que je suis à la radio, je commence à voir le mot comme ça, contrat de ville. Mais voilà. C'est quoi exactement ce contrat de ville, en fait ?
Alors, je vais essayer, d'abord parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc il ne faut pas rentrer dans le long discours. Pour synthétiser, il faut partir du principe que ce qu'on appelle la politique de la ville, donc la notion de politique et de ville est important à mettre en place, la relation entre l'État et les collectivités locales, quand on dit contrat de ville, ça ne mobilise pas simplement la ville, mais c'est aussi le département, hein. C'est aussi la région. En fait, ce sont toutes les collectivités locales. Hein. Et cette forme de contractualisation, elle peut se faire sur un ensemble de problématiques ou de projets qu'ont, par exemple, sur des questions liées à la santé. Hein, développer mieux les réseaux de santé sur un territoire, hein, donner un quartier, une ville, une agglomération. La genèse des contrats de ville, on peut, dans l'histoire de la politique de la ville, qu'on peut elle-même mettre en perspective à partir de la période de Giscard d'Estaing, avec les contrats habitat social, développement social, habitat social, puis l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 81, puis 83, le rapport du Bedou, hein, ensemble refaire les quartiers populaires, la ville et le quartier populaire, hein, où la question de la participation est au cœur des habitants, est au cœur du dispositif dans la philosophie d'Hubert Dubedou, dans sa démarche. Et puis, dans les années, on va dire, 98, quand Jospin, quand la gauche gagne les élections après que Jacques Chirac ait dissous l'Assemblée nationale, cette période-là, Claude Barthelone est nommé ministre de la ville. Et c'est Claude Barthelone qui va initier cette notion de contrat de ville, qui en fait est dans l'histoire de la politique de la ville. La politique de la ville, il faut la voir comme, sur 40 ans, une longue histoire où plusieurs dispositifs se superposent. Et la politique de la ville, telle qu'elle se constitue, il faut la penser par rapport à la question de la décentralisation. C'est-à-dire qu'en 1982, quand Mitterrand arrive au pouvoir, la gauche arrive au pouvoir, on décide de décentraliser, avant 82, la France hypercentralisée. Et l'État, c'est le préfet. Okay. Et le préfet a du pouvoir, en termes de compétences, que les villes n'ont pas, que les collectivités locales n'ont pas, et que tout le processus de décentralisation qui va être mis en place par Gaston Defer, qui est ministre de l'Intérieur à l'époque, eh bien, c'est une négociation entre le transfert de compétences, de compétences qu'a l'État sur les territoires locaux, etc., et les villes, et les départements, et les régions. Donc, c'est tout un processus qui se met en place à partir de 82. Et dans ce processus-là, il y a des phénomènes sociaux qui vont se produire, 81, 82, 83. Les phénomènes sociaux sont les crises urbaines, Quand on dit les crises urbaines, ce sont les conditions de vie des populations les plus pauvres, puisque nous sommes dans les périodes entre les années 70 et les années 80, 90. Et on connaît l'histoire de 80, une certaine révolte de banlieue, que ce soit à Grenoble, Paul Mistral, par exemple. Moi, je me rappellerai toujours qu'à cette époque-là, il y a eu des mouvements très forts à Vaux-en-Velin, côté de Lyon, etc. Et on peut faire l'inventaire. Puis, 83, la marche pour l'égalité des droits. Et donc, en fait, l'État socialiste, à cette époque-là, confronté à des phénomènes de contestation, de demande d'égalité des droits, puisque la société française, à cette époque-là, est dans une dimension très contradictoire face à la condition d'habitat des populations les plus pauvres, puisqu'en période de crise, il y a beaucoup de gens qui perdent leur travail, se retrouvent au chômage, etc. Donc il y a des conditions sociales très fortes, d'une part. Et d'autre part, et je vais boucler là-dessus, on va enclencher ce processus de décentralisation. Et comme l'État perd du pouvoir, ce sont les collectivités locales qui prennent toutes ces compétences, eh bien, la politique de la ville, c'est le retour de l'État au niveau local. Et pour mettre en place ce retour de l'État, ça, c'est important, face au phénomène de décentralisation. Dans les années 98, 90, 2000, Claude Barthelone, dans le cadre de la politique de la ville, qui s'est enclenchée dès 83, des rapports du Bedeau à peu près, eh bien, ce retour de l'État signait des contrats de ville. Et les premiers contrats de ville qui ont été signés, où Barthelone était présent, c'était dans les Hautes-Garonne, en Gironde, sur quatre villes, Bassins, Lormont, Florac, et ce nom, voilà.
D'accord.
Voilà. Et donc, simplement pour... Donc, ces contrats de ville commencent là, et ça touche tous les problèmes sociaux qui peuvent exister, et c'est formulé entre la région, la ville, l'État,
ouais.
Voilà.
Moi, en tout cas, voilà, Rachid, tu nous as fait cet historique qui remonte il y a 40 ans. Donc, voilà, tout ce que tu viens de dire, moi, je me dis que, je sais pas, il y a 40 ans, mais on est encore dans les mêmes problèmes, en fait. Donc, voilà.
Alors, la question que tu poses, c'est la question de la permanence et la question de la contradiction et la question des ruptures qu'ont produit ces politiques publiques. Et alors, ces politiques publiques, il faut savoir que il y a, dans ces rapports qui ont été faits sur la politique de la ville dans les années 90, notamment des chercheurs comme Dongelot, on dit que finalement, l'État, après décentralisation, devient un État animateur. Il va animer des questions, c'est le retour de l'État. Ces permanences, oui et non. C'est à la fois une permanence et en même temps, c'est une rupture. Parce qu'il y a une nouvelle manière de gérer les populations qui vivent sur des territoires les plus pauvres, des sociétés locales.
D'accord.
Alors, quand je dis sociétés locales, ce sont les villes dans leur ensemble. Et ce n'est pas simplement les quartiers populaires ou les quartiers dissensibles, la politique de la ville, etc. Tout ça, ce sont des notions que la politique de la ville a inventées pour nommer les situations des populations les plus déshéritées et les plus pauvres en France.
D'accord. Mais voilà, aujourd'hui, en fait, comment on peut faire que, pour la parole des citoyens et des citoyennes, Christelle, tu l'as souligné, que vous avez du mal à faire remonter la participation des citoyens et citoyennes. Donc, Anan, toi, tu es habitante et aussi tu es engagée dans la vie associative.
Tout à fait.
Voilà. Aujourd'hui, comment on peut faire pour que... Parce que je pense quand même, si on pense... En faisant un contrat de ville, on ne peut pas le faire sans les citoyens, parce que si en parlant de la ville, c'est les citoyens, les citoyennes qui la font.
Tout à fait. Donc, pas de politique de la ville sans
ses habitants.
Tout à fait.
Donc voilà, on fait comment du coup ?
On fait comment justement pour... C'est pour ça qu'on est là. On remercie bien sûr News FM de nous avoir invités pour
plaisir.
Qu'on puisse en fait insister sur le fait que les habitants participent demain. En force, parce qu'ils ont la parole pendant 1h45 minutes. Ils peuvent tout dire devant cette commission. qui sera, j'espère, présidé par Mohamed Meshmesh. J'espère qu'il sera là. Et donc, ils peuvent, voilà, ils ont la parole, ils ont le dialogue, voilà, ils ont tout. Et bon, ils ont, parce que moi aussi, je fais partie des habitants. Donc, on a cette chance de faire remonter les problématiques. Pas que les problématiques, pas que les côtés négatifs qui se passent dans les quartiers. Si j'ose dire, parce que M. Rachid, il ne va pas aimer de dire comme ça. Donc, voilà. Mais il y a le côté positif aussi, qu'il faut dire que, voilà, moi, de mon point de vue, c'est tous les quartiers, entre parenthèses, il y a un cadre agréable. Malgré que, voilà, il y a à certains moments, voilà, des hauts et des bas, je suis d'accord, mais voilà, dans tous les quartiers, il y a un environnement, il y a un cadre agréable, il fait bon de vivre. Ce clivage et cette, ce mélange de toutes sortes de personnes,
Donc c'est une richesse.
C'est une richesse. Et cette richesse, voilà, il faut partir de là pour
construire une ville,
voilà, digne de, voilà, sans regarder forcément que le côté positif. Il faut aussi, on va dire...
Il faut s'autocritiquer quand même.
Exactement. Il faut aussi mettre dans la lumière, donc les associations qui font... qui sont très très engagés avec dans ces quartiers-là qu'on les voit pas, mais ils travaillent durement pour améliorer donc le cadre de vie avec les habitants et voilà donc et tout ce qui se passe dans le quartier.
Donc si je comprends bien cette participation citoyenne, hein, on a vu il y a eu beaucoup d'échos quand même avec Grenoble capitale verte européenne, participation citoyenne et tout. Donc mais pour que ça se passe bien, puisque souvent quand même les assos, c'est eux qui se positionnent intermédiaires entre les citoyens et l'État ou les institutions, si je peux le dire comme ça, parce que nous, les citoyens, tout seuls, on a beau crier, mais ça n'a rien changé en fait. Donc du coup, maintenant, pour que la voix des citoyens puisse arriver jusqu'à l'État et qu'ils prennent en compte de leurs aspirations, comment on peut faire cela ?
Honnêtement, je crois que personne vraiment a la recette. Néanmoins, quand même, on peut dire certaines choses. C'est que ce soit les habitants ou les associations, c'est de sortir un petit peu de... Enfin, j'allais dire, c'est pas de sortir, hein, mais c'est déjà d'éviter la censure ou l'autocensure. C'est-à-dire que la forme actuelle de l'organisation du débat est déjà compliquée. Comme je disais, on a été invité à 3 semaines de la venue de l'audition
à la dernière minute.
Donc déjà, en fait, quand on regarde la forme des débats, elle est très, très compliquée. Donc est-ce que c'est une instrumentalisation ou pas ? De toute façon, c'est toujours une question qu'on a derrière, en fait. Mais néanmoins, je pense que je pense qu'on a la possibilité, en fait, en tout cas, c'est ce qu'on a tenté de faire, d'organiser le débat sur l'ensemble des thématiques. Et je pense que là, on pourrait peut-être refaire un point sur qui est à la tête de cette commission, qui est quand même Mohamed Meshmesh, qui est le fondateur de Assez le Feu et de Passons-nous, qui est quand même qui a été créé suite en fait aux émeutes de 2006 ou 2009 avec 2005 avec Ziad et Bouna, où en fait on parle toujours des émeutes, mais on en a eu, comme disait Rachid, en fait c'est un mouvement historique et national, c'est-à-dire qu'on a eu des émeutes en 2006 partout en France suite au décès de Ziad et Bouna, mais en fait on a plein de décès constants suite à la police, et en fait Meshmesh il est quand même le représentant de ce mouvement-là, et du coup du mouvement Passons-nous, c'est-à-dire ce qui se fait pas sans nous se fait contre nous. Nous après, moi tu sais, c'est nous, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de Passons-nous, c'est qu'on fait en fait, et puis que les institutions, en tout cas on tente de faire, et en fait avec les moyens qu'on nous donne, qui sont parfois complètement dérisoires, et est-ce que ça c'est pas un frein ? Donc on va en discuter aussi, tout ça, les moyens financiers, humains, l'instrumentalisation. Certains parlent de vampirisme en fait des institutions, parce qu'ils prennent l'ensemble des projets des associations, ils écartent certaines associations et pas d'autres. Donc en fait c'est l'organisation sociale en fait des politique, mais dans un joli terme.
Quand même on est en train de vivre ça, il y a beaucoup d'assos quand même voilà, qui ont disparu, hein, mmh. parce qu'on les a coupés aussi leurs subventions. Et c'est des assos qui sont très proches aussi de la population mmh. ou des quartiers, comme on dit.
Ils sont en train de s'éteindre, en fait, petit à petit. Donc, il y a beaucoup d'associations. Voilà.
Ben, on parle de, enfin, la difficulté du mouvement associatif, elle est réelle, mais on en parle depuis des dizaines d'années, etc. Mais après, c'est comment on analyse les mécanismes de lien entre les associations et les institutions, et quel est leur rapport de force, parce qu'il y a des associations qui se débrouillent très très bien.
Tout à fait.
Donc voilà. Mais après, dans les quartiers, effectivement, c'est toujours un peu dans les quartiers. Moi non plus, j'ai un problème avec ce terme, parce qu'en fait, Grenoble, je considère que c'est un quartier. Enfin, on est tous politiques de la ville. Il n'y a pas de quartier. Du coup, c'est un peu plus complexe que
parce
ça.
Que nous, en tout cas, nous, les citoyens, on est perdus entre toutes ces formules-là et tout ça. On ne sait plus là où on
c'est
doit
une
être.
Manière, en fait, de ghettoiser, en fait. Et puis de, alors qu'au sein, on va dire, des quartiers, entre guillemets, c'est l'universalité, en fait, de la pensée, des problématiques, etc. Donc, en fait, comment on sort la pensée des quartiers et comment on fait en sorte qu'elle soit diffusée de manière universelle et comment elle est prise en compte. Parce que les problématiques au sein des quartiers, c'est les mêmes partout, à la campagne, en montagne, etc. Sauf qu'en fait, on veut ghettoiser. Rachid parlera aussi de la racialisation, de tous ces phénomènes en fait, qui sont issus des politiques publiques. En fait. Ce n'est pas les populations qui sont communautaires et qui se racialisent, etc. C'est construit par les politiques public. Et c'est une vraie problématique. Et c'est là où il faut qu'en fait, on tente de faire sauter ces leviers. Mmh. Et l'après-midi de demain, en tout cas, elle est vue dans ce sens.
Donc l'après-midi de demain, tout le monde peut participer. Hein. C'est ça, l'après-midi de demain. Que tu sois citoyen, citoyenne, tout le monde est le bienvenu.
Tous les habitants
quoi.
De Grenoble.
Ouais, bon, si ce n'est pas trop tard, en tout cas, les amis, voilà, vous êtes tous appelés demain à l'auditorium du musée d'histoire naturelle de Grenoble. Donc, Rachid, toi, t'en penses quoi de tout
Alors,
ça
Alors, d'abord, je voudrais répondre à Madame Alain, mm-hmm. Qui m'a appelé Monsieur Rachid. ça me touche beaucoup. Hein. ce qu'elle a noté, peut-être sans le savoir, on le fait tous sans le savoir parce qu'on a intériorisé, mais je dirais même on a incorporé un langage. La petite ville, c'est d'abord un langage. C'est un ensemble de mots que l'institution produit, que les politiques, dans leur position, selon leur position nationale ou locale, les techniciens, les conseillers des politiques de la ville. C'est-à-dire que la politique de la ville, c'est à la fois, comme dirait Dubedou, la volonté de faire participer les habitants à leur histoire locale, leur histoire vécue, leur quotidien, etc. Mais ce vœu de Dubedou, il est permanent dans tous les contrats et dans tous les dispositifs de la politique de la ville, mais il n'est jamais vraiment réalisé. C'est un peu comme le socialisme, c'est-à-dire c'est une idée généreuse, ou la démocratie, c'est une idée généreuse qu'on veut réaliser, mais qu'on n'arrive jamais à réaliser réellement. Donc c'est tout ce processus. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un combat. Si c'est un combat, donc il y a un champ de force. Si c'est un champ de force, il y a un ensemble d'acteurs. S'il y a un ensemble d'acteurs, les habitants font partie de ces acteurs. Mais les habitants ne sont pas homogènes. Ils sont multipliés, divisés, eux-mêmes en concurrence. Tu as parlé de favoritisme. Je crois qu'il faut éviter ce genre de langage parce que ce n'est pas la question du favoritisme. Mmh. Et ce n'est pas la question de désigner certains qui ont plus que d'autres. Mmh. C'est comment, dans un rapport de force politique, idéologique, sociale, dans un combat où la politique de la ville essaye de répondre à des attentes, de répondre à des conflits, de répondre à des crises, 2005, la marche, etc., de répondre à des mobilisations locales, localisées, visibles, invisibles, parce qu'on parle de la marche, on parle de 2005, parce que c'est visible, les médias le prennent en charge. Il y a plein d'événements locaux qui ne sont pas visibles et qui sont très anciens. Dans le rapport moi, je dirais qu'en fait, il y a deux générations de population. Parce que 40 ans, c'est une frontière. On passe d'une génération à l'autre. Hein. Et cette frontière de génération qu'il faut poser comme question. C'est-à-dire que les habitants des années 70-80 ne sont pas les mêmes qu'actuellement. Il y a eu des transformations. Il y a eu des décès dans les familles. Il y a eu des bébés qui sont arrivés. Il y a une nouvelle génération, etc. Donc il faut bien se rendre compte que nous sommes sur un objet très complexe hein, parce qu'on parle de vie sociale. De complexité de la vie ordinaire. Et les acteurs, c'est qui ? Les élus, nationaux, locaux, les techniciens dans les villes, architecture, urbanisme, social, etc. Hein, et les habitants. et les associations. Mmh. C'est-à-dire qu'on a un ensemble d'acteurs qui est en combat, qui lutte pour ses propres intérêts selon, je dirais, sa configuration, selon le lieu où il habite. Alors, bien sûr, Christelle a dit, oui, mais le quartier, c'est plus grand. Et on peut penser Grenoble comme un quartier. Mmh. La pensée de Dubedoux, quand Dubedoux crée la Villeneuve, ben, si vous regardez bien la Villeneuve, c'est une connexion entre la ville de Chirolles et la ville de Grenoble. C'est une continuité urbaine. Donc on est bien dans des espaces urbains qui se constituent sur la longue durée. Mm-hmm. Donc il faut prendre en compte la longue durée de l'histoire urbaine et sociale, la longue durée des processus d'habitat et de logement des populations et de ségrégation, des processus de ségrégation qui sont induits. Soit pour des raisons politiques. Moi, il se trouve que j'ai travaillé sur plusieurs villes, au moins sur cette ville. Grenoble, Montpellier, Bordeaux, Thionville, Créteil, etc. Et que j'ai rencontré des populations de toutes ces villes, que j'ai essayé de comparer d'un point de vue statistique et d'un point de vue historique. Et on s'aperçoit que les décisions politiques locales ne sont pas les mêmes à Grenoble, à Bordeaux, à Montpellier ou à Thionville. Mais on trouve qu'à Grenoble, à la période du Bedoux, entre 65 et 83, hein, et pas à la période Carignan, parce que quand... dans la période du Bedou, on s'occupe du centre-ville pour laisser les habitants avoir un projet urbain d'un habitat qui se disloque, qui est quand même le cœur de ville du centre de Grenoble, où toute une migration italienne et algérienne est au cœur. Le projet du Bedou dans les années 80, c'est de garder ces populations sur leur lieu et de rénover l'espace urbain. Quand arrive Carignan, la municipalité Carignan, sa stratégie, c'est quand même de ralentir ce processus et de modifier. À un processus de socialisation et de garder les populations, on a un processus idéologique et politique libéral qui va transformer ça. Donc, en fait, penser Grenoble, c'est penser aussi la continuité et la discontinuité politique. C'est penser aussi les rapports de force locaux vécus par les habitants, par les situations, dans les rapports à la mairie, dans les rapports à l'État et... dans le rapport à l'État, celui de la police, qui est quand même fondamental et structurant. Et structurant, là, tu as parlé tout à l'heure, on a une continuité. On a une continuité de la violence et des rapports de force de l'État sur les nouvelles générations et les générations de jeunes habitants. Et cette continuité, il faut l'analyser dans ce qu'elle est historiquement, dans la manière dont ces habitats, qui sont quand même de l'habitat social, qui maintenant est devenu de l'habitat mixte, parce qu'on construit, on mélange toute l'idéologie de la mixité sociale qui arrive à la période d'ailleurs de Jospin. Hein. Donc ces questions que l'on se pose, elles sont complexes d'un point de vue des valeurs et de l'idéologie de la représentation. Elles sont complexes du point de vue de l'expérience vécue de l'habitant tels que le vivent ces habitants de manière différenciée dans un quartier populaire, quel qu'il soit, mais aussi dans un quartier du centre-ville, quel qu'il soit. Et l'enjeu que nous avons ici, demain, c'est de donner à l'habitant un statut qu'il a réellement dans son expérience vécue, et moi je l'ai observé dans mon travail sur la genèse et les usages du discours sur l'intégration en France dans le champ du logement social, c'est que quand les habitants parlent, eh bien, on s'aperçoit que il y a des habitants historiens, il y a des habitants géographes, il y a des habitants photographes, il y a des habitants artistes, il y a des habitants militants, il y a des habitants syndicalistes. Et toutes ces connaissances, ces savoir-faire de ces habitants, quand ils se mobilisent collectivement pour construire de l'action, pour réfléchir aux problèmes sociaux individuels et collectifs, parce que, quand on l'a dit à Anne tout à l'heure, c'est toujours difficile de parler du « nous ». Il vaut mieux toujours parler de soi, parce que quand on parle de soi, on maîtrise, on sait de quoi on parle. Dès qu'on englobe les autres, on se plante, parce que les autres, c'est les autres. Nous, c'est nous. Nous, on connaît notre histoire. Eh bien, ces habitants, demain, il s'agira de leur donner le statut réel qu'ils ont dans l'expérience vécue et la connaissance qu'ils ont dans la vie sociale ordinaire. Oui, que mais... les acteurs autres, élus qui ont un statut, techniciens qui ont un statut, eux ont légitimement de fait. Donc, dire simplement habitant n'est pas suffisant. Donc, habitant historien, habitant géographe, habitant photographe, habitant militant, habitant syndicaliste, habitant enfant, habitant femme, habitant, etc., habitante, hein, et toutes ces variations de style narratif de qu'est-ce qu'un habitant et qu'est-ce que la participation d'un habitant, eh bien, à mon sens, c'est montrer la complexité, la diversité et surtout restituer le droit à la parole. Et le droit à la parole dans la ville, c'est le droit à la ville.
C'est important.
Et le droit à la ville, c'est Henri Lefebvre, tous les travaux d'Henri Lefebvre sur la question urbaine dans les années et du logement dans les années 60-70, bah, le droit à la ville, c'est pour tout le monde.
Mais voilà.
Droit à la parole et droit à la ville.
Oui, mais en tout cas, moi, Rachid, hein, bon, je n'ai pas une large expérience, mais d'après tout ce que je vois aujourd'hui, en parlant de logement, tu vois, moi, je vois que la situation, ça s'empire de pire en pire, tu vois. Tous les jours. Donc,
alors,
voilà.
Ce que tu
est-ce
vois...
que c'est parce que, est-ce que c'est parce que, voilà, on dit participation citoyenne. Est-ce que, voilà, les citoyens ils participent, mais si on leur donne pas ces outils pour qu'ils puissent arriver à leur fin, comment ça écoute, peut être possible?
Écoute, je t'appelais cher ami. Ce sera plus simple. Comme ça, on va engager une relation qui va nous permettre de discuter ensemble. Quand tu dis je vois, ce que tu vois, c'est ton expérience personnelle. Mm-hmm. Mais quand tu dis je vois ça à la radio, collectivement, etc., il faut que tu détailles, il faut que tu sois précis, camarade. Mm-hmm. Parce que si tu n'es pas précis, tu vas globaliser et tu vas faire comme font beaucoup de médias.
Non, non, moi,
Non, quand tu dis je
pour
vois,
les, pour les
peux dire...
Concernant non, le logement,
termine,
par exemple.
Il faut okay. que tu dises... Non, mais il faut dire... Parce que autrement, on est sur un jeu très complexe. Mm-hmm. Pour ça que je fais attention et je prends des pincettes quand j'utilise mon langage. Hein. Moi, c'est moi qui m'engage. Quand tu décris quelque chose de complexe, il faut que tu parles du cas de manière précise.
Okay.
Sinon, on va généraliser et globaliser ce que tu racontes. Donc, nous devons faire attention quand nous prenons la parole. Nous devons aussi écouter l'autre et comprendre ce que l'autre veut nous dire. Ce que tu veux nous dire, c'est qu'il y a des difficultés malgré tout. Et ça, c'est permanent.
Oui, mais ce n'est pas malgré tout. Ça, c'est des difficultés de tous les jours. Moi, j'en parlais de crise de logement. Moi-même, j'en ai vécu et je suis encore là-dedans. Tu vois,
eh ben,
j'ai participé aussi dans
ça nous intéresse.
J'ai participé aussi à dans beaucoup de manifestations hein, pour le droit au logement. Donc voilà, moi je me dis que on nous dit les citoyens, vous avez droit de participer et que on ne peut pas construire la ville sans vous. Mais je sais pas. Voilà.
Après, tu pourras venir demain.
Après, de toute façon, la question de l'impact des habitants sur les politiques de la ville et sur la politique, c'est clair qu'elle est très complexe. Enfin. Mais déjà, on ne peut pas s'empêcher de parler parce qu'on n'arrive pas à vraiment avoir les solutions. Si on ne fait pas un pas, même après l'autre, deux pas, etc., si on ne s'investit pas dans la société civile organisée, on va dire dans les associations, ou si on ne va pas voter, ou si en fait si on n'a pas une pratique en fait, de la vie politique, effectivement, ça ne changera pas. Mais néanmoins, je pense que l'histoire des luttes... Elles ont toujours... Enfin, après, c'est une vision, on va dire, positive et pas pessimiste. C'est-à-dire que l'accès au droit a toujours quand même évolué de manière, en tout cas, favorable, même s'il y a des reculs de temps en temps, même si la lutte, elle est dure, même s'il y a eu des violences. En fait, on ne peut pas se soustraire aux acquis sociaux, aux acquis en droit qu'on a eus. Du coup, rien que ça, en fait, ça vaut le coup de dire ben, « on participe ». On fait le jeu des associations et on peut même créer sa propre association. On crée son mouvement, on crée sa pensée, on crée son discours. Et en fait, il faut jouer le jeu, entre guillemets, démocratique à un moment donné. Et il y a eu des... Enfin, tu vois, sur les violences policières, ben, effectivement, il n'y a pas vraiment d'avancée. Mais d'autres vont dire que si, en fait, en droit... par exemple, Pierre-Didier Tchétchapéa, qui est venu, qui vient régulièrement lorsqu'on fait des émissions sur le contrôle aux faciès, il va dire que, ben, en fait, c'est grâce aussi à la marche que maintenant il y a une obligation des médecins dans les GAV pour faire les constats en fait des violences. On a Assa Traoré qui continue son combat, Amel Bensoussi etc. qui a quand même gagné. Il y a des procès qui sont gagnés. Donc en fait on peut pas dire que les gens quand ils participent à la vie démocratique ne font rien. Les artistes aussi ont leur rôle à jouer. Ils transmettent l'histoire, ils transmettent les luttes. Donc en fait chacun dans son domaine, comme disait Hanan, bah en fait il y a comme disait Rachid, sur les habitants, dans toute notre diversité, dans toutes nos richesses, en fait, on arrive à en fait, se construire. Parce que c'est quoi l'objet de la démocratie ? C'est qu'en fait, individuellement, on s'en sorte. On a un logement décent, digne, on ne se fasse pas contrôler à 10 ans en allant chercher du pain. Voilà, c'est une dignité dans la ville. Mais du coup, faut le prendre à bras-le-corps, ça, à mon sens. Voilà. Et puis,
C'est un combat ? C'est un rapport de force.
Oui, non, il y a eu des évolutions.
Quand même une grosse crise démocratique. Alors, je vais juste finir. Il y a quand même effectivement dans un contexte actuel une grosse crise de la démocratie. On va pas se leurrer. On voit les manifestations, le droit de manifester, les libertés associatives qui sont complètement, qui deviennent un peu défaillantes, un service public aussi qui devient de plus défaillant, avec des souffrances des fonctionnaires dans tous les secteurs, santé, police, magistrats, tous nos services sont en souffrance. Donc on est dans un contexte politique particulier, mais néanmoins, c'est le contexte dans lequel on vit. Donc, on est obligé de faire avec. On s'est, du coup, on s'est mobilisé là, nous, avec un certain nombre d'associations, et pas toutes. Et c'est pour ça qu'en fait, parce qu'on nous prévient aussi en dernier moment, bah on se mobilise, tu vois, nous aussi, là, à 18h, faire une émission pour dire, ben voilà, il y a quand même Mechmash qui vient, c'est une occasion. C'est une occasion aussi de savoir ce que c'est, rien qu'une commission ministérielle, une audition, de savoir comment fonctionne la démocratie. Il y a Piolle qui sera là, Mechmash sera là, il y aura des élus, il y aura Pierre Didier, Nadia Kirat, enfin, il y a un certain nombre de personnes. Rachid Menjeli qui est spécialiste, il y a quand même des choses, voilà.
C'est... Tout à fait. Il faut profiter de cette occasion pour...
En tout cas, moi, demain, j'espère que tous les citoyens et citoyennes de Grenoble, ils seront présents.
Alors,
parce que, venez, on ne va pas les laisser construire la ville de demain sans nous.
Exactement. Tout à fait. Tout
Alors,
à fait.
Tu veux parler à la loupe ?
Non.
Alors, moi...
Là aussi, les militants, laisse tomber.
J'essaye de prendre des précautions dans le langage, parce que la politique de la ville, c'est d'abord du langage. Mm-hmm. Et c'est d'abord des prises de parole. Et qui parle, au nom de qui, pourquoi, comment, etc. Et là, dans ce que tu as énoncé, Christelle, dans ce que tu as énoncé dans ton expérience, à la fois « je » et « nous », et dans ce que tu énonces, toi, dans ta perception en tant qu'homme de radio, donc homme des médias, qui souvent caricaturent malgré eux-mêmes, d'ailleurs. Hein.
Rachid, là,
t'es sérieux, là.
Attends, Sana, il est super.
Si. Non. Je dis pourquoi.
C'est mon frère, attention.
Non, Christelle, laisse. Dis.
Non, moi, j'ai pour le conflit.
De toute façon, je ne vais pas te laisser comme ça.
Quand on dit, tu me fais penser, quand tu as dit ça, c'est gentil de ta part, mais... Non, mais je suis toujours comme ça, moi.
Tu taquines, là.
J'aime bien taquiner. Parce que ça nous permet d'aller plus loin dans le rapport de force.
Okay.
Quand j'écoute dans les médias...
Non, on n'a pas assez de force déjà. En parlant de rapport de force,
je parle pas de la radio. Non, mais quand j'écoute dans les médias, les hommes politiques dans l'idéologie, c'est important d'en parler comme ça, franchement entre nous, d'extrême droite et de droite, qui disent « Ouais, 40 ans de politique de la ville, on a mis beaucoup d'argent, il s'est rien passé. » C'est pas vrai. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais personne n'est capable de restituer la chose. Et la seule chose qui est restitue, c'est « Ah, il y a encore des problèmes. » Bien sûr qu'il y a des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Et attends, s'il n'y avait pas de problème, on ne serait pas vivant. Donc, ce n'est pas ça la question. Moi, ce qui m'intéresse, et pour demain, c'est fondamental, et tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y ait une prise de parole publique de tout le monde, et Christelle l'a rappelé, et que ça soit un rapport de force. Parce qu'il y a les grands mouvements politiques et idéologiques que l'on voit qui vont lutter pour et contre les injustices, contre ces situations-là. Et il y a des mouvements localisés que la vie associative produit et essaye de résoudre localement avec des élus, avec etc. Donc, en fait, toute cette complexité-là, elle ne peut se comprendre, restituer que si on donne la parole vécue. C'est pour ça que je me permets et localiser. Parce que les jeux de pouvoir, bien sûr qu'ils sont au niveau national, mais surtout, les jeux de pouvoir, ils sont toujours au niveau local. Et c'est seulement au niveau local qu'on peut maîtriser les rapports de pouvoir. Parce que les jeux de pouvoir analysés au niveau national, comment tu peux agir dessus avec l'appareil des médias, etc. On ne possède rien, nous. Ce qu'on possède, c'est notre parole, notre présence, notre action et le fait de demain y aller. Et déjà, y aller, c'est un rapport de force. Tu vois ?
Voilà, déjà, en parlant de rapport de force, tu nous fais peur, nous les citoyens, tu vois. Tout ce qui est politique, rapport de force, ça nous fait peur, tu vois. Donc, je pense qu'aussi, il y a... Je sais pas, il y a un problème de langage. Moi, je sais pas, hein, parce que moi, je suis souvent quand même en contact plus avec les non seulement les assos, mais les quartiers, comme on dit, voilà. Donc, je vois comment ça se passe aussi. Donc, je pense que c'est important aussi de pouvoir leur expliquer les termes sans autant passer par des mots, par des expressions politiques, en fait.
Tout à fait, tu vois. Je te rejoins tout à fait sur ce que tu dis, Sana. Parce qu'en fait, je pense que lorsqu'on est sur un dialogue politique et on utilise des termes assez, assez techniques et assez ciblés, et, on perd les gens. Je crois qu'on perd les habitants. Donc, il faut essayer de ne pas banaliser le dialogue. Choisir des termes ou laisser les habitants justement construire ce dialogue à leur manière, avec leur code, avec, voilà, avec ce qu'ils souhaitent mettre en place, sans voilà, dire, voilà, rentrer dans, dans le dialogue politique qu'on connaît, que, voilà, des termes qu'on a, que les habitants utilisent les dictionnaires pour comprendre c'est quoi, ils veulent dire quoi. Donc non, il faut justement simplifier, simplifier ce dialogue avec des termes compréhensibles par tout le monde. Voilà, donc il y a des gens, il y a des habitants qui ont jamais, sont jamais partis à l'école, il y a des habitants qui ne comprennent pas les mots techniques français utilisés dans, voilà, dans, ce, de, dans la politique. Il y a plusieurs, donc on ne peut pas les toucher parce qu'ils disent « Ah, je ne comprends rien, ça me, voilà, c'est bon, j'arrête. » Voilà.
C'est la politique.
Voilà, c'est la politique. ça me, voilà. Donc non, au contraire, il faut aller les chercher, il faut dire non, par contre, tu ne comprends pas, on va utiliser. Qu'est-ce que tu veux utiliser comme un autre dialogue plus facile, plus adapté, et voilà, et après, après même, voilà, trouver d'autres moyens pour attirer les habitants qui se trouvent freinés devant ce dialogue incompréhensible.
Donc c'est pourquoi moi j'ai des, Rachid, hein, j'ai des un problème, mais j'ai pas dit parce qu'il y a un problème, faut pas chercher de solution, tu vois. Parce que nous, les habitants, quand on vient là-bas dans des commissions comme ça, nous, en tant qu'habitants, en venant, on vient avec nos problèmes, des problèmes que nous, on rencontre dans nos quartiers et qu'on aimerait que, voilà, qu'on trouve des solutions communes ensemble, tu vois. Donc, c'est là que moi, je dis que, voilà, quand même, il y a des problèmes, tu vois.
Alors, tu veux aller, Christelle ?
Ouais, juste pour Sana, enfin, je pense que cette réunion, elle a, en tout cas, on l'a voulu comme ça, c'est-à-dire que c'est, pour moi en tout cas, c'est vraiment que les habitants, comme dit Anan, puissent parler comme ils sont.
Comme ils sont,
okay. Avec des gros mots, on ne sait pas parler, j'en sais rien, tu vois. On est comme on est, en fait. Mm-hmm. Et des fois, il y en a qui ne parlent même pas, qui ne savent pas parler, mais qui sont là.
Et qui n'osent pas.
Et qui n'osent pas. Qui sont... Mais en fait, peut-être ils peuvent trouver quelqu'un qui va parler à leur place, etc. Il y a peut-être des stratégies à avoir. Mais en fait, pour moi, cet temps de rencontre, ce n'est même pas autant avec les institutions... Enfin, qu'ils entendent les institutions... Mais en fait, peu importe qu'ils n'entendent pas, au moins la parole, elle a été dite. On s'est entendu entre nous, déjà entre habitants, parce qu'on ne se connaît pas forcément. Et du coup, en fait, on voit les problématiques des autres et ça fait un dynamisme, en fait. Déjà, c'est un peu... Moi, quand j'entends Rachid, le rapport de force, c'est ça. C'est parce qu'en fait, quand on parle de, par exemple, l'intérêt... Bon, moi, je ne suis pas dans ça. Mais tout l'intérêt des espaces autogérés, par exemple, etc. Quand tu as les habitants qui s'organisent, qui s'auto-organisent, en fait, toute cette richesse-là, quand on a les artistes qui s'auto-produisent, etc., la parole, elle est là. Enfin, je veux dire... et la création, elle est là. Les habitants sont là. Donc après, que les institutions suivent ou suivent pas, en fait, honnêtement, on s'en fout. Parce qu'en fait, on va tenter de faire société ensemble. Et c'est déjà beaucoup.
Tout à fait.
Et après, le reste, si on fait... Enfin, tu vois, moi, j'ai fait venir des policiers, tu vois, qui seront là, qui nous soutiennent aussi dans nos... Enfin, tu vois, il y en a qui vont faire venir Anan, elle va faire venir je sais pas qui, etc. Et en fait, le dialogue, il va se faire déjà entre nous. Après, les institutions, même Meshmash, même nous, on organise un temps. Est-ce que le gouvernement va nous entendre ? On n'a pas la main sur ça. Mais en même temps, l'important, c'est pas ça. L'important, c'est qu'on passe un moment ensemble et qu'on voit où sont les problématiques. Et après, on va travailler ensemble, organiser d'autres réunions, d'autres actions, etc. Et on verra bien ce qu'il en sortira. Enfin voilà, je le vois comme ça.
Demain de 13h30 à 17h. En tout cas, les amis, ne manquez pas ça. Parce que c'est la meilleure occasion, quoi.
Tout à fait.
Oui, Rachid.
Alors, moi, quand je dis rapport de force, je dis reconnaissance.
OK.
Quand je dis reconnaissance, c'est que la parole des uns et des autres soit considérée comme légitime. Tu vois ? Parce que les élus et les techniciens toute la strate d'acteurs qui sont complexes, hein, il n'y a pas que les habitants, il y a ceux qui vont intervenir en tant que techniciens, architectes, qui vont s'occuper de la politique de la ville dans sa dimension budgétaire, etc. Et donc, ils ont tous des langages différents. Et la langue et le langage des habitants... C'est une langue qui est multiple et diverse elle-même. Et donc, il faut que ces acteurs-là reconnaissent la légitimité de cette langue, des habitants, de cette variété que vous avez soulignée, hein, dans sa manière d'être, hein, qui n'est pas un langage hyper construit, hyper intellectualisé, etc., mais qui est un langage qui est pensé, sa propre expérience. C'est pas conceptuel. C'est, voilà, je raconte ma vie, je raconte mon histoire. Alors, pourquoi je dis ça ? Et pourquoi c'est important ? Les deux expériences qui sont les plus saillantes dans les travaux que j'ai faits dans le cadre de ma thèse, c'est... je vais rapidement.
Non, vas-y.
Créteil. Créteil, un quartier populaire qui date des années 60, il va être en démolition. Le centre social me demande d'intervenir pendant un an avec les habitants pour prendre la parole, parce qu'il va y avoir un problème de relogement, qui vient majoritairement des femmes, cinquantaine, hein, femmes, quelques hommes assez âgés, les hommes, la journée, ils ne peuvent pas y travailler, etc. 3 heures de réunion des enfants, des femmes, des populations multiples et diverses, qui, ceux sont, qui sont arrivés dans les années 60, mm-hmm. dans les années 80, 90, donc plusieurs générations, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 mois de rencontres tous les 15 jours des habitants qui prennent la parole, eh bien, les associations, vous savez ce qu'ils décident? Ils décident de monter une association, l'association des habitants. Et grâce à la prise de parole qu'ils ont eue, d'abord, ça leur a permis de se rencontrer, mm-hmm. alors qu'ils sont voisins, mais qu'ils ne se parlent pas de ces choses-là de manière ordinaire. De créer du collectif, de créer du politique. Et quand les habitants prennent la parole entre eux, avec eux, ensemble, etc., il y a du politique qui se constitue, il y a du groupe qui se constitue, et il y a du rapport de force, dans le sens là que je veux le dire. C'est-à-dire que la parole est reconnue par à la fois les élus et surtout l'office HLM. L'office HLM a ouvert les comptes. Ils sont aperçus que l'office HLM avait prélevé de l'argent, de manière indue, et ils ont dû restituer l'argent aux habitants. C'est ça. Donc, l'enjeu de la prise de parole des habitants, d'où prendre la parole pour la donner, hein, de demain, hein, c'est que les habitants aient une capacité en plus, une possibilité en plus, un espace en plus pour se mobiliser.
D'accord. Parce que cette commission, elle est aussi composée des habitants et des habitants et des professionnels, c'est ça, hein, cette commission.
La commission Mechmash, moi, je ne la connais pas. Donc, on va la connaître demain. Il va nous présenter. On connaît Mechmash parce qu'il passe à la télévision, à C'est le feu, etc. Et que dans le jeu politique, Macron a besoin quand même... parce que c'est ça, il y a un enjeu politique national, hein, de représenter. Bon, Mechmash est là pour dire on a auditionné les habitants, ça permet de légitimer. Mais jusqu'où on peut aller? Jusqu'où ils vont aller? Jusqu'où le gouvernement, quels moyens ils vont mettre et quels moyens la ville va mettre dans ces accords-là, etc. Ça, on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que nous, demain, nous avons intérêt à ce que les plus d'habitants possibles puissent exprimer leur propre expérience avec leur langage, leurs mots, pour faire du collectif.
Tout à fait. Yes. En tout cas, merci beaucoup, les amis. Là, on merci arrive à la fin de cette émission.
Franchement, merci Sana pour l'accueil, encore au dernier moment de nous avoir accueillis.
Plaisir,
et puis toujours là. Et puis voilà, c'est tout. Demain, si vous avez envie de venir, venez, les portes sont ouvertes. Okay.
Et je te remercie d'être ce que tu es et la manière dont tu m'as titillé, parce que moi, ça me permet de répondre à ma manière. Et les habitants, et c'est comme ça qu'ils doivent faire. Comme tu as fait.
Merci Rachid.
Sans prier.
Anan, donc voilà, toi, tu es une habitante. Hein. Demain, tout on va se croiser là-bas. Hein.
J'espère. Je souhaite te voir. J'aimerais bien te voir, ainsi que les personnes, donc les auditeurs, s'ils nous entendent. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse, qu'on marque la présence, donc que les habitants marquent leur présence dans cette commission, qu'on aura un échange
positif, bien sûr.
Voilà, et qu'on parle de tout, sans filtre, sans rien du tout. Alors, on vous attend, venez nombreux, et voilà.
En tout cas, les projets... Il y en a beaucoup, beaucoup de projets quand même qui va au bien de tout le quartier ou de toute la ville. Non, mon Grenoble, c'est un quartier. Je préfère parler comme ça maintenant.
Ouais, oui. Juste pour finir, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'assos qui font... Nous, on n'est que là, on est trois, parce que voilà, on a pu s'organiser comme ça. Mais bon, il y a plein d'associations. Et je ne pourrais même pas les citer. Mais il y a Villeneuve Debout, il y a l'association Next Planning, il y a plein d'associations.
Il y a Annecy, les gens d'Annecy.
Il y a des gens d'Annecy, ouais. Il y a des gens un peu des milieux ruraux, etc. Voilà. Enfin, du coup, ouais. On a essayé quand même de tenter en 3 semaines de s'organiser au mieux.
Mais pas facile.
Voilà, pas facile. Et puis, il y a aussi une déclaration. On a tenté d'écrire quelque chose, une déclaration de Grenoble. Mm-hmm. Donc, les gens aussi pourront...
Signer une déclaration.
Et puis, la modifier. Enfin, voilà. On essaye de s'organiser comme on peut.
OK, mais cette déclaration, ça sera en ligne ou c'est sur place ou pour l'instant...
Pour l'instant, elle va être diffusée sur place. Okay. En fait, si jamais, est-ce qu'il y a un contact là? Si jamais, en fait, ah bah si, je vais donner les contacts du coup. Ouais. Vous pouvez appeler Jawad, C'est lui qui gère le mail et le numéro de téléphone. Donc, c'est 07 66 56 59 41. C'est peut-être trop rapide.
Ouais, tu peux le répéter.
07 66 56 59 41. Il vous donnera toutes les infos. Et si jamais vous voulez participer, signer les associations, etc., ben vous êtes, parce qu'on n'a pas eu le temps de contacter toutes les associations.
Mais ça fait quoi si on signe les assos?
Là, en fait, ils sont signataires, c'est-à-dire qu'ils peuvent à la fois modifier et être signataires de la déclaration de Grenoble. Donc, en fait, c'est comme en fait, une déclaration d'intention, d'objectif qu'on se pose et du coup qui pose un peu les premiers constats, les premières difficultés, ce qu'on a envie de bouger, etc. Sur,
d'accord. Voilà. Rachid, mon ami.
Oui, mon ami.
Alors, alors quels sont tes derniers mots là, avant qu'on va se retrouver là-bas là, parce que c'est tout Grenoble qui va venir là-bas demain.
Alors, moi, mes derniers mots, ils sont très simples. Mm-hmm. Quand j'ai dit prendre la parole pour les donner, mm-hmm. c'est que c'est vraiment ce travail d'écoute qui va être mis en place. Et quand je dis d'écoute, l'objectif de l'ensemble des organisateurs de ce moment-là, mm-hmm. c'est que qu'on soit élu, qu'on soit technicien, qu'on soit professionnel, qu'on soit habitant, quel que soit le statut qu'on va représenter demain, mm-hmm. eh bien, on va tenter, on va essayer de donner la parole à tout le monde de manière égalitaire. Hein. Et c'est pour ça que l'objet, ce n'est pas une tribune pour une personne ou une autre personne, une institution ou autre. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de rencontre et c'est un lieu de mobilisation, puisqu'apparemment, il faut penser la chose comme quelque chose qui démarre. Donc, on est au début. Et si on est au début, eh bien, il faut tous être là, présents, pour mobiliser un ensemble de personnes et créer ce que j'appelle, moi, vraiment un rapport de force.
Oui, et après, c'est vraiment toutes les thématiques. C'est-à-dire que ça peut toucher la culture, les associations culturelles, les
toute
associations sport-santé, mmh. les associations police-justice, les associations... Tout le monde est là pour environ... Enfin, voilà, toutes les thématiques.
Donc, sur ça...
Oui, cher ami.
Ouais. On a quand même fait une heure. Hein.
Ouais. Bonne soirée. En tout cas, Rachid, toujours au plaisir. Ah. Je vais t'inviter le plus souvent, là. Comme ça,
merci,
on va faire des petits débats ici.
Alors moi, en ton honneur, si tu permets, hein, je voudrais finir par quelque chose. Il y a, dans une tradition africaine, et c'est à l'époque coloniale, il y avait un village que les colons avaient constitué. Dans ce village... on va dire moderne, tout neuf, avec du logement livré, etc. Hein. Dans ce lieu, il y avait avant un tout petit village où les femmes allaient au puits. Et elles allaient au puits régulièrement parce qu'elles faisaient leur activité. Les hommes étaient au champ, les femmes allaient au puits, elles allaient au champ. Elles faisaient toute leur vie comme elles le faisaient, comme la tradition le fait. Mmh. Et quand, dans la stratégie coloniale, on a construit les habitats, on a mis l'eau dans toutes les maisons. Ce qui fait qu'il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Quand l'extraordinaire, c'est vraiment au sens propre du terme, c'est que les femmes n'allaient plus au puits. Elles avaient l'eau au robinet. Donc, elles avaient une contrainte en moins. Mmh. On pourrait appeler ça modernisation, transformation. Mais ça, le fait d'avoir éliminé le puits, l'un des paradoxes, c'est que ça a produit des problèmes au niveau des femmes liés à la solitude. D'accord. Alors qu'avant, elles avaient un lieu de parole, parce que le puits était une institution de la parole des femmes, elles maîtrisaient l'eau, elles étaient celles qui portaient l'eau. Hein. Et bien, le fait de détruire cette institution-là, et bien, ça a transformé totalement la relation que les femmes avaient elles-mêmes à leur mode de vie. Voilà. Et ça, ça se passait en Afrique au moment colonial. Et donc, les questions que l'on pose maintenant sont des questions simples et ordinaires.
Oui, exactement. Quand je pense à toutes les associations de femmes qui veulent créer des hammams et tout ça, et qui ne sont pas soutenues, alors que c'est un lieu super pour les femmes,
de
réappropriation
des
corps, oui, mais de santé, réappropriation des corps, etc. Et bien, voilà. Et bien, les politiques de la ville, elles doivent soutenir ça aussi. Donc, les associations de femmes, vous êtes les bienvenues, parce que je sais qu'il y en a plein.
Exactement.
Et voilà. Merci, Rachid, pour cette jolie
histoire. J'en parle pourquoi ? J'en parle pourquoi ? Parce que quand tu parles de continuité ou rupture, hein, et contradiction, on est dans ces questions-là. C'est-à-dire que l'identité des corps des hommes et des corps des femmes n'ont pas les mêmes pratiques sociales dans l'habitat social et dans l'habitat en général. Hein. Et faire disparaître une institution telle que le puits, parce que le puits est une institution sociale, qui socialisent, eh bien, c'est créer d'autres problèmes ailleurs auxquels on n'a pas pensé. Et si ça existait pendant le moment colonial, dans le moment postcolonial où nous sommes, eh bien, je peux vous dire qu'on peut trouver plein de cas où les institutions sont rasées et les pratiques sont, ne sont pas mises en place alors que les gens ont le désir d'être ce qu'ils sont dans leur propre identité.
Bon, c'est rassurant. Hein.
Je t'en prie.
Merci beaucoup à tous les trois. Et puis, rendez-vous demain hein, à l'auditorium du Musée d'Histoire et Naturelle de Grenoble. Donc, ça sera de 13h30 à 17h, les amis.
Et moi, oui. Je peux finir. Oui, merci News FM et Farid de nous accueillir à chaque fois. Et oui. C'est une jolie table ronde où on peut discuter, échanger à chaque fois. Donc, merci News FM parce qu'ils existent depuis aussi. Combien vous avez fêté 32 ans. Donc, ça fait partie des radios associatives qui portent l'ensemble des associations sur Grenoble. Donc, on remercie. Et merci, Sana. Encore. Avec et plaisir. On va peut-être arrêter là. Parce que...
Non, moi, j'ai juste à dire que je te remercie parce que. Ma parole, elle est libre, elle n'est pas censurée. Ouais. Je vois que tu acceptes toutes les contradictions. Et pour un animateur comme ça, c'est rare.
C'est vrai.
Et j'espère qu'on se reverra à Louise FM.
Il n'y a pas de souci.
Avec grand plaisir pour échanger et contrecarrer notre propre discours ensemble.
T'es le bienvenu. On va se capter. En tout cas, voilà, merci à vous aussi, hein, vous qui nous écoutez hein, depuis 18h, les amis. Donc voilà, je le répète encore demain. Si vous avez des choses à dire, ça se passe à l'auditorium du Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble, donc c'est à partir de 13h30 jusqu'à 17h et c'est tout Grenoble qui est invité, donc ne manquez pas ça.
Le 16-19 avec Sana sur News FM.